Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous arrivons, chers auditeurs, à la période des fêtes de fin d'année et je me propose de préparer pour vous une émission un peu différente des lectures habituelles pour parler avec vous de Noël de différentes façons. Textes, musique instrumentale, chants divers qui nous rappelleront le thème qu'on a l'habitude d'attribuer au 25 décembre, la fête de Noël rappelant la naissance de Jésus. Il y aura donc la lecture d'un texte de la Bible et d'un conte de Noël qui se passe dans les Cévennes. Ce sera entrecoupé de chants, de musique instrumentale et de diverses choses.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.
In the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Voici Noël.
Je lis maintenant dans la Bible l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la maison de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit.
Yeah.
Lecture d'un conte de Noël. Je lis pour le temps de Noël le secret du père Ézéchias. D'après le secret de Maître Cornille, Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin. Ici, ce sera un conte adapté par Robert Blancou et l'histoire se passe dans les Cévennes. Écoutez. L'année dernière, pour Noël, nous étions à la Rancarède, petit village des Cévennes. Benjamin Morel, un ancien tondeur de moutons, était venu passer la veillée avec nous. Vers 10 heures, la cloche du temple se mit à sonner. Morel se leva. « Ah ! » dit-il, « il est temps que j'y aille. Au village, personne ne manque plus le culte de la nuit de Noël depuis l'affaire du père Ézéchias. » L'affaire du père Ézéchias ? Pardi, vous n'êtes pas du pays, vous autres ! Morel se rassit pour nous raconter un petit drame de village dont le temple avait été le témoin il y a quelques 20 ans. Imaginez que vous êtes assis devant une poêlée de châtaigne rôtie, devant un verre de clinton, et que c'est un vieux tondeur de moutons des Cévennes qui vous parle. Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été aussi dépeuplé qu'aujourd'hui, et a connu autrefois des heures de grande ferveur religieuse. Tous les dimanches, nous montions au temple par bandes, tous en famille. Là-haut, le pasteur nous expliquait la Bible, et nous chantions à pleine voix des psaumes et des cantiques. C'était plaisir d'entendre le « Amen » des fidèles à la fin des prières. En ce temps-là, les temples de la région étaient pleins, le parterre comme les tribunes. Mais peu à peu, les gens sont devenus indifférents. Ils ont laissé leur Bible au fond des placards ou sur les étagères poussiéreuses. Plus de prières, plus de cantiques, plus d'assemblées. Alors, les pasteurs sont partis et les cloches ont cessé de sonner l'une après l'autre. Pourtant, au milieu de la débâcle, un temple a tenu bon, celui-là même dont vous entendez la cloche maintenant. Dire qu'il a tenu est un grand mot, car personne n'y mettait plus les pieds, si ce n'est Ézéchias Mazoyer, qu'on appelait le père Ézéchias. C'était le jardinier du temple. Le pasteur était parti, mais lui, rien à faire. Il avait tenu à rester, ne pouvant se résigner à abandonner la maison du Seigneur. Le père Ézéchias vivait seul dans la sacristie du temple, barricadé un peu comme un ermite. Son comportement devenait bizarre. Il parlait de moins en moins. On le voyait à travers les villages avec une grande sacoche bourrée d'évangiles et de traités. Quand on lui demandait à quoi pouvait servir toute cette littérature vieillotte, il répondait avec un air malicieux en mettant son doigt sur sa bouche. « Motus, je travaille pour les missions !» Mais... les mauvaises langues disaient qu'il transportait des fioles d'extrait de pastis ou qu'il travaillait pour la CIA ou le KGB. Mais alors, le dimanche, le mystère devenait encore plus grand. De bon matin, la cloche du temple sonnait le début du culte. Personne, vous entendez bien, personne ne montait au temple. Pas une jardinière, pas un chat devant la grande porte fermée. Pourtant, au bout d'un moment, on entendait l'assemblée chanter des cantiques. Mais d'où venaient ces gens-là? Parfois, suivant de quel côté soufflait le vent, on percevait des bribes de prédications. Ainsi, un jour, la femme de mon voisin a réveillé son mari. « Horace, lève-toi, viens écouter. Ce prédicateur, Rien qu'à son accent, on dirait que c'est un Américain. Eh mais non, grosse bédigue, c'est Yves Perrier. Le dimanche suivant. Horace, lève-toi, viens écouter. C'est savant, c'est difficile, c'est compliqué. Eh, c'est normal, grosse badiane, c'est Henri Blocher qui parle. De toute évidence, il y avait un secret dans la vie du père Ézéchias. On mit longtemps à percer le mystère. Mais un jour, tout se découvrit. Voici comment. J'avais remarqué que mon fils, Lucien, et la petite nièce du père Ézéchias s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Je n'en étais pas fâchée, car Nanette était une brave fille. Elle n'avait plus de famille, à part son grand-oncle Ézéchias. Mais elle ne le voyait presque plus depuis qu'elle travaillait à Saint-Jean-du-Gard à la filature rouge et qu'Ézéchias s'était barricadé dans le temple. Or, un 24 décembre, dans l'après-midi, j'esclapais du bois dans ma cour quand je vois arriver mon Lucien et Nanette pour les présentations, comme on dit, officielles. Nous entrons, on bavarde, on boit le café et au moment de partir, Nanette me dit « Monsieur Morel, soyez brave, je n'ose pas aller annoncer notre mariage au grand-oncle Ézéchias. Vous savez, il est devenu pas commode. Vous n'accepteriez pas d'aller lui parler ?» La petite insista tellement qu'un quart d'heure plus tard, je prenais le chemin qui monte au temple. Arrivé là-haut, je frappai à la porte. « Qui va là ?» dit Ézéchias. « C'est moi, Morel. Que me veux-tu ? » ?»« J'aimerais rentrer pour vous parler. » »« Tu n'as pas besoin d'entrer. Parle, je t'écoute. » Inutile d'insister. Et par le trou de la grosse serrure, je lui expliquai la situation. « Ah, il vous aurait fallu entendre de quelle façon ce vieux grincheux m'a répondu. Espèce de mécréant, mauvais chrétien, qu'on ne voit jamais au culte. Si tu veux caser ton fils, tu n'as qu'à prendre ta pétrolette et descendre à Nîmes. Tu y trouveras bien un pasteur qui voudra marier des mécréants comme eux. » Le sang me montait à la tête. Je revins à la maison, furieux et consterné. Nanette fondit en larmes. Lucien, lui, s'écria « Il faut faire quelque chose. Vite, montons voir ton grand-oncle. » Et hop, voilà les amoureux partis. Bien sûr, quand ils arrivèrent là-haut, ils trouvèrent la porte close. Mais ils ne s'avouèrent pas battus. Ils passèrent par derrière. Là, ils trouvèrent un fenestron mal fermé. Et au prix de quelques acrobaties, ils parvinrent à entrer dans la grande salle du temple. Quel spectacle! Quelle désolation! Vous ne pouvez pas imaginer! De la poussière partout, des bancs vermoulus, des toiles d'araignées dans tous les coins, des souris couraient sur les tribunes, des babarottes couraient dans l'allée centrale et une odeur de moisie. Père Ézéchias, où êtes-vous ? Personne pour répondre. Il était sorti entre-temps. Par curiosité, ils montèrent dans la tour du clocher. Là, Lucien aperçut une vieille sache. Il la souleva et découvrit une caisse en bois. Il déplaça le couvercle. Un objet était enfermé dans un linge. Lucien défit le linge et là, il trouva. Il trouva un magnétophone à cassette. À côté, dans un vieux bonnet, il y avait des cassettes marquées « Convention d'Anduze, serment d'André Adoul, serment de Charles Guillot, sermon de Jean-Marie Nicole, etc. C'était là le secret du père Ézéchias. Chaque dimanche, il faisait marcher son magnétophone pour faire croire que le temple était toujours vivant. Nanette et Lucien furent bouleversés. Ils coururent avertir tous les jeunes du village. Et moi, j'allai chez les vieux. Nous partîmes tous trois et par un prompt renfort, nous fûmes 50 devant le Café du Nord. Nous t'aimes conseil. Nous décidâmes qu'à l'heure de la veillée, nous monterions tous au temple comme jadis. Chacun amena tout ce qu'il avait de Bible et de cantique. Vers 10 heures du soir, nous étions prêts. Cette nuit de Noël était pleine d'étoiles et avec la neige, on y voyait comme en plein jour. Jeunes, vieux, femmes, enfants, nous prîmes tous le chemin qui monte au temple à la lumière de quelques bougies. L'émotion nous faisait marcher presque en silence. Arrivés là-haut, nous criâmes d'une seule voix. « Ohé, père Ézéchias, ouvre le temple, nous sommes tous là !» Le vieux semblait paralysé par la surprise, mais il ouvrit les deux battants de la grande porte en disant « Ah, mais je le savais bien que vous reviendriez !» Il aurait fallu nous voir nous engouffrer dans l'édifice à la lueur des bougies. Bien vite, les bancs furent pris d'assaut. « mes enfants, vous êtes revenus à la maison !» La joie éclairait le visage du vieux alors que nous avions envie de pleurer. À un moment, dans sa joie, il se précipita sur la corde de la cloche et se mit à sonner si fort que la corde finit par se rompre et la cloche se tut. Il revint au milieu de nous, ne sachant que faire. Quelqu'un cria « Père Ézéchias, lis-nous dans la Bible !» Ézéchias monta en chair, ouvrit une grosse Bible en tremblant. L'émotion l'empêchait de lire. Il regardait en l'air comme au-delà de la voûte du temple. Il dit en balbutiant « Seigneur, tu vois mon trouble. Toi qui es tout-puissant, montre-leur toi-même que tu es là !» Alors, plusieurs coups de vent violents descendus de l'égoile firent osciller la grosse cloche sans le secours d'aucune main. C'est qu'il y avait là plus que le vent. Le Saint-Esprit passait sur ses têtes baissées et convainquait ses âmes de péché, de justice et de jugement. Les visages s'inclinaient les uns après les autres. Et vous savez, monsieur, ce soir-là, beaucoup retrouvèrent le Seigneur en cette belle nuit de Noël, dans la pénombre, à la lueur des bougies, assis sur ses bancs. Et avec le Seigneur, ils trouvèrent la paix du cœur. Ézéchias dit d'une voix joyeuse et forte, « Maintenant, il nous faut remercier le Seigneur en chantant tous ensemble. Toi, Tancred, le pastre, tu as toujours bonne voix. Entonne un cantique. » Le berger se leva, timide, tortillant entre ses doigts sa vieille casquette, et d'une belle voix de basse, il chanta. Il est né le roi du monde, le Christ libérateur, que la terre au ciel réponde, d'une voix d'un même cœur. Et l'assemblée reprit, dans l'étable misérable, contemplons ce nouveau-né. À la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Morel se tut. Il vida son verre de clinton, prit sa canne, sa pèlerine et s'avança vers la porte. « Excusez-moi, je dois vous quitter. Je serai en retard au prêche. Mais je suis bien heureux que vous connaissiez maintenant le secret du père Ézéchias. » À vous, chers auditeurs, je souhaite de belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et par avance, bonne année. À très bientôt pour reprendre un nouveau livre. Et n'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.